Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la Radio Phara sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous parlons d'un projet ambitieux qui pourrait bien révolutionner notre façon de communiquer avec le projet Starlink d'Elon Musk. Comme vous en avez certainement entendu parler, Elon Musk, le patron de SpaceX et des voitures Tesla, ne manque jamais une occasion de repousser les limites de la technologie. Cette fois, il souhaite déployer des milliers de satellites en orbite pour améliorer l'accès à Internet partout dans le monde. Cette décision n'enchante pas tout le monde. Certains astronautes s'inquiètent à propos de la pollution lumineuse que les satellites pourraient engendrer. D'autres ont peur des risques de collision dans l'espace. Malgré les dangers, Starlink séduit déjà des millions d'utilisateurs et est extrêmement attendu. Je suis Guillaume Enrode, votre présentateur, et je vous invite à suivre avec moi notre édition spéciale réalisée par le lycée Albert Camus à Bois-Colombes, dans la classe de seconde. Nous sommes en direct sur 93.9 FM et nous allons parler des enjeux de l'espace. Au programme aujourd'hui, nous écouterons Alexandre Urga, notre cher chroniqueur, qui nous parlera de la découverte de l'espace, des enjeux économiques et géopolitiques, et finira par nous parler des problèmes de pollution que les satellites engendreraient. Nous accueillerons Gabriel Lepape, qui se fera interviewer par notre journaliste François Chamaillou. Nous finirons cette émission avec un invité extrêmement spécial, Jules Grandcire, qui se fera interviewer par Félix Belêtre. C'est parti pour la Radio Phara.
La Radio Phara.
Notre chroniqueur, Alexandre Urga. Comment vas-tu, Alexandre ?
Bonjour, eh bien écoutez, tout va bien.
Aujourd'hui, tu viens nous parler de la découverte de l'espace, puis des enjeux économiques et géopolitiques, pour finir avec les pollutions que les satellites engendreraient.
Effectivement. L'espace, ce vaste et mystérieux territoire au-dessus de notre tête, qui fascine depuis des siècles. Si, aujourd'hui, nous le connaissons un peu mieux grâce à des missions scientifiques et à la technologie, il reste encore un immense champ d'exploration et d'opportunités. Cependant, il est aussi devenu un terrain de compétition, où les enjeux sont à la fois politiques, économiques, militaires et environnementaux. L'espace, loin d'être un simple domaine d'aventure, est devenu un enjeu stratégique majeur sur la scène internationale. Au début du XXe siècle, l'espace était un sujet de science-fiction, mais en 1957, l'URSS lance en orbite le tout premier satellite, avant d'en envoyer un deuxième avec à bord la chaîne Laika, le premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Après ça, tout s'accélère. En 1961, le soviétique Yuri Gagarin est le premier homme envoyé en orbite. En 1969, les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les deux premiers hommes à marcher sur la Lune. Cela marquera un tournant. Ce moment symbolisera les ambitions des deux grandes nations de l'époque, l'URSS et les USA, qui se lanceront dans une guerre de l'espace qui fait suite à la guerre froide déjà présente. À la fin de ce conflit, les puissances mondiales lanceront plusieurs missions spatiales visant à connaître plus sur l'espace. Elles lanceront aussi des satellites pour améliorer les communications et progresser dans les domaines météorologiques ou encore la navigation. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises privées comme SpaceX ou Blue Origin s'invitent dans cet espace dominé auparavant par les gouvernements, ce qui pose question de la privatisation de l'espace.
Au sujet de la conquête spatiale ?
Aujourd'hui, la conquête spatiale a pris un tournant inédit. L'espace n'est plus seulement un champ d'exploration scientifique, mais devient un terrain de rivalité géopolitique et économique. Les acteurs internationaux sont nombreux, la Chine, l'Union européenne, la Russie ou encore les USA. Chacune de ces puissances cherche à tirer le meilleur des ressources spatiales, comme les nouveaux minerais rares qui se trouvent sur les astéroïdes et sur la Lune. Au-delà de ça, l'espace est aussi un terrain de compétition militaire. L'accès au contrôle de l'espace et aux infrastructures en orbite sont des enjeux stratégiques. Des programmes comme le Space Force, lancé par les États-Unis, ou la capacité de défense spatiale déployée par la Chine témoignent de cette dimension militaire. La question de la militarisation de l'espace est aujourd'hui au cœur des préoccupations internationales. Il s'agit de savoir si, à long terme, l'espace deviendra un nouveau champ de bataille avec des armes de destruction massive capables d'atteindre des satellites et des installations en orbite.
Qu'en est-il des dangers environnementaux ?
L'exploration de l'espace, bien que fascinante, soulève également des questions environnementales. L'impact de la pollution spatiale est déjà un sujet de débat. Les débris spatiaux, Ces morceaux de satellites désaffectés ou de pièces d'engins spatiaux cassés polluent l'orbite terrestre. Ils représentent un danger pour les missions en cours, mais aussi pour de futures explorations. À cela s'ajoute la problématique de la gestion des ressources spatiales. Si l'exploitation des ressources extraterrestres devient réalité, il faudra garantir une exploitation responsable qui ne soit pas une nouvelle forme de colonialisme.
Merci beaucoup pour ta participation, Alexandre. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. On vient d'écouter La Isla Bonita de Madonna. L'émission La Radio Phara continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste François Chamaillou. Bonjour François, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Nous allons recevoir Gabriel Lepape qui travaille à l'ESA. Et vous alors Gabriel, comment allez-vous ?
Très bien aussi, je suis très heureux d'être ici sur ce plateau.
Avec plaisir. Vous allez nous parler de la géopolitique spatiale.
Alors Gabriel, penses-tu que la compétition internationale pour le contrôle de l'espace sera bénéfique au progrès ou causera au contraire un ralentissement du progrès et des conflits à l'échelle mondiale ?
Eh bien, c'est un sujet complexe. Pour l'instant, on peut penser que la coopération est favorable car les tensions sont encore assez basses et les pays comme la Chine et les États-Unis ont des objectifs communs donc quant à la conquête spatiale. Par contre, ils ont des objectifs aussi qui peuvent diverger, notamment sur leurs ambitions stratégiques. La Chine a réalisé des grandes avancées majeures ces temps-ci, telles que la sonde Chang'e 4 qu'ils ont envoyée sur la face cachée de la Lune en 2019. Les États-Unis, eux, ont répliqué avec leur programme Artemis, qui vise à établir une vie durable et une présence humaine durable sur la Lune. Donc on peut penser que les conflits pourraient augmenter avec l'espace, mais aussi se radoucir.
Ah, merci pour ta réponse. Pourrais-tu me parler maintenant des tensions entre la Chine et les États-Unis dans le domaine spatial ?
Bien, comme je le disais tout à l'heure, les tensions sont notamment liées au développement croissant de la Chine, pour ce qui est notamment de son propre système de navigation de satellite, Beidou, qui du coup vise à réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes étrangers comme Google Maps, qui est du coup américain. Les États-Unis, eux, ont peur que ce système soit utilisé à des fins militaires. Effectivement, on peut comprendre qu'un système de repérage par satellite et un système de guidage par satellite peut être dangereux, notamment utilisé sur des armements comme des missiles, et ainsi de suite. Donc, mais toutefois, nous sommes sûrs que la coopération est encore une chose vitale entre la Chine et les États-Unis, comme le programme, comme en témoigne le programme franco-chinois SVOM en 2024, avec l'aide des États-Unis.
Ah, très bien. Et du côté de l'Europe, penses-tu qu'elle aura la puissance économique et scientifique pour rattraper les géants chinois et états-uniens sur la scène spatiale ?
L'Europe possède une base solide dans le domaine spatial, car elle a des bases notamment états-uniennes établies un peu partout. Elle a aussi des programmes spatiaux tels qu'Ariane en France, qui a réussi de nombreuses missions scientifiques. Cependant, les investissements des États-Unis et de la Chine sont vraiment massifs par rapport à ceux de l'Europe, qui essaye quand même de rivaliser avec son association l'ESA. On peut remarquer que les initiatives sont améliorées de ces dernières années. Le budget notamment de l'ESA a été augmenté de 25%, soit un budget de 18,5 milliards d'euros en tout pour la période 2023-2025. Ce qui reste malheureusement extrêmement faible par rapport au financement des États-Unis et de la Chine. Donc on peut penser qu'au niveau technologique et scientifique, nous sommes à un niveau qui peut poser compétition, mais question financement, nous sommes encore en reste.
D'accord. Et sur le plan de l'Allemagne, comment vois-tu son entrée dans la course à la conquête spatiale ?
L'Allemagne, comme on a pu le voir, a renforcé sa présence dans le domaine spatial avec son niveau institutionnel qui favorise des études dans le domaine de l'espace ou au niveau industriel, comme ses entreprises RFA, Hisar Aerospace et iImpulse Technologies qui ont développé de nouveaux lanceurs, notamment le lanceur Spectrum, lancé il y a à peine une semaine. Donc ce lanceur-là a volé très peu, mais c'est considéré comme un succès. Et comme une avancée du coup pour l'Allemagne qui est encore assez prémisse dans le domaine spatial.
Super, merci beaucoup pour tes réponses Gabriel.
Merci beaucoup pour votre intervention à tous les deux.
La Radio Phara.
Et pour notre seconde interview, notre journaliste Félix Bellettre. Bienvenue Félix, vous allez bien ?
Ça va, merci.
Nous avons une chance énorme de recevoir Jules Grand-Cyr pour en apprendre un peu plus sur lui au travers des questions de Félix. Merci Jules d'être présent parmi nous. Tout va bien ?
Merci à vous, merci de m'inviter. Oui, tout va bien.
Parfait.
Bonjour Jules Grand-Cyr, vous êtes communicant à l'ESA. En quoi consiste ce poste ?
Bonjour Félix, la communication à l'ESA, c'est une forme de responsabilité. L'ESA, c'est l'agence spatiale européenne, ça veut dire que c'est l'agence spatiale de tous les Européens. C'est un peu la NASA des Européens, si vous voulez. Ça veut dire que les citoyens européens contribuent aux missions de l'agence. En gros, ils payent. Ils payent pour les missions d'astronautes, ils payent pour les missions scientifiques, pour l'observation de la Terre, etc. Ils ne payent pas beaucoup, c'est à peu près de l'ordre d'un ticket de cinéma par personne par an, donc c'est vraiment pas grand-chose. Pour toutes les retombées qu'il y a. Mais en revanche, ça oblige l'agence à rendre compte de ce qu'on fait et aussi d'expliquer ce qu'on veut faire dans l'avenir. Et ça, c'est finalement le travail de la communication à l'Agence spatiale européenne.
Très bien. Rêvez-vous d'un autre poste dans l'espace ou dans des domaines différents quand vous étiez petit ?
Ouais, quand j'étais petit, je voulais être rugbyman professionnel, mais dans les années 80, ça n'existait pas encore. Maintenant, ça existe, donc j'aurais pu le faire, mais au bout d'un moment, ça m'a semblé un petit peu trop court comme carrière, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit peu autre chose.
Et donc, qu'est-ce qui vous a emmené dans ce rôle de communicant ?
Ben, moi, je suis tombé un petit peu amoureux de la communication quand j'étais en master. D'abord, j'ai fait une maîtrise de littérature. J'ai écrit une thèse sur la littérature médiévale, les romans de la Table Ronde, notamment les romans allemands du Moyen-Âge. Et c'est ce qui m'a un petit peu donné le virus de la communication, le virus de raconter des histoires. Et ensuite, quand j'ai fait un master de management, un MBA, j'ai décidé de me spécialiser dans les relations publiques, dans la communication, afin de continuer faire partie de celles et ceux qui finalement racontent les histoires de ce qu'on fait dans l'humanité.
Et pourquoi l'espace en particulier ? Pourquoi l'ESA ?
Ben, pourquoi l'ESA ? Pourquoi l'espace déjà ? Parce que c'est vraiment encore la dernière frontière. Ce qu'on fait dans l'espace, c'est toujours une zone où la réponse n'est pas écrite à l'arrière sur la quatrième de couverture. C'est vraiment des zones où on ne sait pas ce qui va se passer. L'exploration, c'est on fait un pas, on regarde, on fait un deuxième pas, on regarde ce qui se passe. On ne sait jamais vraiment ce qui va nous advenir. Et c'est ça, je pense, qui est passionnant dans cette aventure spatiale. Pourquoi l'ESA ? C'est vrai, j'aurais pu aussi travailler dans l'industrie spatiale, bien sûr. Vous en avez parlé dans l'interview précédent. Il y a des entreprises fascinantes et passionnantes. Mais pour moi, c'était important de faire encore partie d'une entreprise ou d'une entreprise au sens large, c'est-à-dire d'une institution qui appartient aux citoyens européens. Moi, je suis quelqu'un qui est un citoyen européen convaincu. L'union de l'Europe, l'unité de l'Europe, c'est quelque chose qui m'a toujours été cher. Moi qui ai des amis un petit peu partout en Europe et qui ai vécu aussi dans d'autres pays européens. Donc c'est pour ça que l'ESA, c'était le partenaire idéal pour ma carrière.
Okay. J'ai fait quelques recherches sur vous et sur tous les articles qui vous mentionnent, on vous dit dans l'ombre de Thomas Pesquet. Quel a été votre rôle dans l'explosion médiatique de l'astronaute français ?
Oui, alors les rédacteurs en chef des journaux aiment bien trouver des articles un petit peu provocateurs. Quand j'étais au début de ma carrière à Cologne, au Centre européen des astronautes, j'étais le directeur com des astronautes européens. C'est-à-dire que je me suis occupé des missions, de la communication, des missions spatiales des astronautes de la classe de 2009, c'est-à-dire la classe de Thomas Pesquet. Et donc je me suis effectivement occupé de la communication de la première mission de Thomas Pesquet, mais aussi celle d'Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Andreas Mogensen, Tim Peake et les autres. Donc le rôle, ça consiste à gérer une toute petite équipe de communication qui va, comme je l'expliquais auparavant, rendre compte de la mission, des actions que fait l'astronaute dans l'espace et essaye au plus possible d'embarquer les citoyens dans cette aventure.
Vous faites une apparition dans le livre de Marion Montaigne sur Thomas Pesquet. Pensez-vous que cela a bien défini votre relation avec Thomas Pesquet ?
Oui, alors d'abord, c'est vrai que Marion Montaigne, qui a un génie comique formidable et qui est une personne absolument géniale, a écrit ce livre de 200 pages sur la première mission de Thomas Pesquet, dont je viens de le dire, je faisais partie. Et comme elle est un peu blagueuse sur les bords, elle a décidé de mettre quelques personnages clés de la mission de Thomas autour, enfin, dans la BD. Donc je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Il y a Romain Charles, Yuri Garipoloff et moi, effectivement. Donc il y a 3 ou 4 apparitions, mais il faut vraiment le savoir pour me reconnaître.
Avez-vous travaillé sur les réseaux sociaux de Thomas ?
Oui, les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui, en 2009-2010, quand on a commencé à faire voler la première classe la classe d'astronautes de Thomas Pesquet, était quelque chose qui était vraiment en essor, surtout pour les institutions, pour les corporations. Et c'était le moyen le plus évident pour, comme je le disais tout à l'heure, faire vivre la mission aux suiveurs de la mission de manière presque instantané finalement. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux. À l'époque, on utilisait ce qui s'appelle maintenant X, qui s'appelait Twitter à l'époque. Mais aussi Facebook, il y avait une grosse communauté de suiveurs. Et un petit peu Instagram par la suite. Ouais.
Et comment vous y êtes-vous pris pour lui faire gagner presque 3 millions d'abonnés sur toutes ces plateformes ?
Il y a deux choses. D'abord, le contenu. On parle aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu. Tu vois, quand on dit il ne faut plus dire influenceur, il faut dire créateur de contenu. Ça veut dire quoi, le contenu ? Quand tu regardes ce que les gens créent, ils créent des choses plus ou moins utiles, plus ou moins uniques, des recettes de cuisine, des nouvelles danses, des manières de s'habiller, etc. Ça, c'est très bien, il y en a beaucoup, et c'est très suivi sur les réseaux sociaux. Mais quand un de ces personnages pilote un vaisseau spatial à 400 km au-dessus de la Terre, à 28 000 km/h, ça rime à une station spatiale elle-même en orbite autour de la Terre, qui orbite aussi à 28 000 km/h, pour retrouver un équipage multinational de l'autre côté de la porte. Ça, c'est du vrai contenu. Ça, c'est du vrai, vrai, vrai contenu. Et en réalité, c'est pas si difficile de l'exploiter sur un réseau social, ou dans les médias ou ailleurs.
Okay. Et aujourd'hui, vous avez des projets pour l'avenir ?
Personnellement ?
Personnellement, oui.
Devenir meilleur pour les autres, améliorer ma manière de vivre, rester en bonne santé, et puis être en forme pour pouvoir aider les autres le plus possible. Sinon, dans ma carrière, continuer à servir l'Agence spatiale européenne, pour servir le citoyen européen, pour faire comprendre aussi que l'espace est un secteur clé pour l'avenir de nos sociétés.
Eh bien, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous répondre.
Merci de m'avoir invité.
Merci à tous, c'est la fin de notre émission La Radio Phara. Merci à Alexandre Yurga, François Chamaillou, Gabriel Lepape, Jules Grandcir, Félix Bellettre. Merci également à Antonin Duval pour la réalisation de cette émission. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.